Bonjour à tous. Il y a deux semaines, nous fêtions Pâques en souvenir de la résurrection de Jésus. Dans quelques semaines, le jeudi 18 mai, 40 jours après Pâques, nous fêterons l'Ascension. Ces 40 jours marquent un tournant dans l'histoire de l'humanité. Nous avons l'habitude, d'ailleurs, de dater le cours de l'histoire avec des avant Jésus-Christ et on compte en arrière, et des après Jésus-Christ et nous en sommes actuellement en 2023. Il y aura une petite imprécision sur l'année exacte de naissance, mais cela n'a pas d'importance à ce jour. Toujours est-il que Jésus est sorti vivant du tombeau, comme on a déjà entendu ce matin, où il avait été déposé après son agonie sur la croix. Cet événement change le cours de l'histoire des humains sur terre. Entre Pâques et l'Ascension, Jésus fait quelques mises au point. Nous lisons Acte 1, versets 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Théophile, dont le nom en grec signifie « ami de Dieu », est le destinataire de ce document écrit par Luc à la suite de son évangile. Il s'agit probablement d'un dignitaire de haut rang que Luc nomme excellent Théophile au début de son évangile. D'après les commentaires, il semble que l'évangile de Luc et les actes des apôtres étaient un seul écrit à l'origine qui va de la naissance de Jésus, son ministère terrestre, son agonie sur la croix, son retour à la vie, son ascension vers le Père et la mise en œuvre par les apôtres des directives laissées par Jésus pour fonder l'Église au 1er siècle. La séparation des deux écrits a été décidée arbitrairement par ce qu'on appelle les pères de l'Église, à l'origine de ce qu'on appelle le canon biblique. Il a été décidé que les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, occuperaient une place particulière dans l'ensemble du texte biblique, et donc il a fallu séparer les écrits de Luc. Les églises issues de la réforme dont nous faisons partie retiennent un premier testament avec 39 livres et le nouveau testament avec 27 livres, ce qui nous laisse à ce jour un merveilleux ouvrage de 66 livres qui nous parle de Dieu, qui nous parle des humains qu'il a créés et de cette relation qui peut s'installer et donner un sens à notre vie terrestre. Le texte biblique nous laisse entrevoir le projet de Dieu pour la terre et ses habitants. Ce sont les autorités ecclésiales dans les premiers siècles qui ont sélectionné des écrits qui peu à peu se sont imposés par consensus sous l'inspiration et l'autorité du Saint-Esprit. Même si, à l'origine, Luc adresse son écrit à Théophile, il nous est destiné encore aujourd'hui. Le récit biblique est fait pour durer dans le temps, que chaque génération puisse entendre et étudier Jésus, fils de Dieu, venu sur terre, non pour abolir la loi et les prophètes, qui est décrit dans le Premier Testament, mais pour accomplir cette loi. Matthieu 5, verset 17. Et sur la croix, Jésus, avant de baisser la tête, dit que tout est accompli. Jean 19, verset 30. Jésus, Fils de Dieu, a tout accompli et l'histoire des humains sur la terre change radicalement. Entre Pâques et l'Ascension, 40 jours pour quelques mises au point. Revenons à notre texte. Jésus est au centre du récit. Il a commencé de faire essentiellement des guérisons de toutes sortes de personnes, d'enseigner cette nouvelle compréhension de la loi que Dieu a donnée à son peuple pour son bien. Il introduit cette nouvelle conception de la relation interhumaine basée sur l'amour. Les apôtres, après la débâcle au moment de l'arrestation de Jésus, sont à nouveau réunis pour recevoir les ordres, pour être des instigateurs d'une nouvelle mission terrestre, des ordres pour la mise en œuvre du plan de Dieu pour l'humanité. En préambule, Jésus donne des preuves qu'il est vivant. D'abord à Marie de Magdala et à l'autre Marie, le matin de Pâques. Ensuite, il chemine avec les disciples d'Emmaüs, comme nous avons entendu ce matin largement. Puis, il se présente aux 11 disciples réunis plusieurs fois. Il présente ses mains, ses pieds meurtris. Il mange avec les disciples sur les bords du lac de Tibériade après une nouvelle pêche miraculeuse. Et il donne à Pierre une occasion de se faire pardonner son reniement. 40 jours de mise au point, d'encouragement pour préparer la suite des événements en rappelant les choses essentielles qui concernent le royaume de Dieu. Dans un premier temps, Jésus recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Pour mener à bien leur nouvelle mission, le Saint-Esprit allait se révéler de manière spectaculaire 10 jours après l'Ascension, le jour de la fête de Pentecôte. Les apôtres, en attendant, en ont profité pour faire ce qu'on appelle de nos jours du team building, et en particulier en renforçant l'équipe pour remplacer Judas le traître par Matthias. Le contexte du moment n'était pas favorable pour les disciples. L'occupation romaine en Palestine, caractérisée par le maintien de l'ordre brutal et efficace, le pouvoir religieux traditionnel, organisé et corrompu, ne facilite pas la mise en œuvre du projet de royaume de Dieu. Face à cette réalité, les apôtres n'hésitent pas et demandent alors que Jésus est encore présent physiquement. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablirais le royaume d'Israël ?» Jésus, le Messie annoncé par les prophètes et attendu par le peuple d'Israël, est encore présent avec les apôtres. Ils sont impatients. Le peuple d'Israël imaginait le rétablissement d'un royaume au moins aussi puissant et prospère que du temps du roi David. Mais le projet de Dieu n'est pas de cette nature. Ce n'est pas un projet politique nationaliste qui doit être mis en œuvre en un lieu géographique. Entre les lignes, entre la question et la réponse, on imagine que Jésus, une fois de plus, a pris un air dépité et probablement soupiré. Il est vraiment grand temps que le Saint-Esprit éclaire leur compréhension pour qu'ils puissent se projeter et mettre en œuvre leur nouvelle mission. La réponse ne se fait pas attendre. On entend presque une bonne fois pour toutes, même si ce n'était pas clair pour vous jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Les choses annoncées arriveront en temps et en heure, et seul le Père Céleste décide du moment où cela arrivera. Clairement, ce n'est pas à nous humains de spéculer sur les dates du retour du Christ sur terre et de la concrétisation de l'établissement du royaume de paix et de justice de Jésus. Les disciples restés à Jérusalem étaient vraiment convaincus du retour spectaculaire de Jésus imminent. Ils ont eu beaucoup de mal à mettre en œuvre cette nouvelle dimension de la bonne nouvelle de l'Évangile pour tous, pour tous les habitants de la terre. Partager avec ceux qu'on appelle les païens leur semblait impossible. Pour eux, il fallait d'abord devenir juif pour entrer en relation avec Dieu. Alors que Jésus avait clairement démontré qu'une femme samaritaine, qu'un centenier romain, qu'un collecteur d'impôts pouvait être au bénéfice de la grâce et recevoir le salut en Christ. Les derniers mots de Jésus avant d'être enlevé au ciel ouvrent définitivement cette perspective que les bénédictions qui découlent de l'alliance faite avec Abraham s'étendent à toutes les nations de la terre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus veut un peuple de témoins de son œuvre de salut et de réconciliation, au-delà des frontières, des langues, des couleurs de peau, d'ethnie, de culture et de civilisation, jusqu'aux extrémités de la terre. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous avons une meilleure connaissance des extrémités de la terre que n'avaient les contemporains de Jésus. Les Actes des Apôtres racontent les débuts de cette grande aventure. Jérusalem, Pentecôte avec la barrière des langues qui saute, la Judée, la Samarie, le bassin méditerranéen, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, génération après génération, des hommes et des femmes se sont mis en route pour obéir à cet ordre de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À ce jour, le projet de Dieu pour l'humanité n'est pas encore accompli. Il y a des périodes de l'histoire où de grands progrès sont faits, dans le bon sens, et il y a toujours de longues périodes où des hommes avides de pouvoir et de richesse retardent la mise en œuvre du projet divin. L'Église de Jésus-Christ, dans toute sa richesse et sa diversité, est également confrontée à ces tensions. À son début, les persécutions n'ont pas empêché la croissance, l'expansion géographique de ce peuple de Dieu, élargie dans toutes les directions. Même si la parole de Dieu, le texte biblique est le même pour tous, la mise en œuvre au quotidien n'est pas homogène à ce jour. Mais une parole d'évangile prononcée à Rome ou ailleurs, dans le monde, reste tout à fait pertinente et utile pour rappeler l'œuvre de Jésus et le projet de Dieu. Soyons attentifs néanmoins à toutes les fausses bonnes idées qui pourraient nous séduire. Comme les disciples, nous nous demandons quand ces événements annoncés vont arriver. De nos jours, il est dans l'air du temps d'annoncer les catastrophes qui nous pendent au nez. Dérèglement climatique consécutif à l'augmentation de la population humaine sur Terre et à la surconsommation de carbone fossile. Inquiétude sur la biodiversité, en rapport surtout avec une méconnaissance du monde vivant. Inquiétude maintenant sur l'eau, en général, comme si le cycle de l'eau n'était immuable sur Terre. L'éco-anxiété que génère la médiatisation de ces sujets nous amène à poser la même question que les disciples. Et alors, quand est-ce que la fin va arriver ? Et Jésus nous rappelle que ce n'est pas à nous de connaître ou de diffuser cette annonce de fin des temps, comme beaucoup ont déjà prophétisé au cours de l'histoire. Dans certains milieux dits évangéliques, certains parlent de signes qui nous suggèrent que le retour de Jésus est imminent, en particulier en rapport avec l'État d'Israël qui a pu à nouveau exister en Palestine après la Deuxième Guerre mondiale. L'État d'Israël, en tant que nation, n'est pas à identifier avec le peuple de Dieu, même si une partie de sa population est encore attachée à la pratique du culte du premier testament. La réponse de Jésus pour nos inquiétudes et nos spéculations sur l'avenir de l'histoire reste la même. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. En attendant, ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance et la fidélité à son enseignement, partout et en toutes époques sur Terre. Pour conclure, il est bon de fêter Noël, Pâques, l'Ascension, Pentecôte, et nous rappeler, année après année, que Jésus, le Fils de Dieu, a partagé notre existence terrestre. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, comme c'est écrit dans Hébreux 13, verset 8. Son enseignement, sa vie exemplaire restent notre modèle à imiter. Par la foi, nous devenons les sujets de son royaume de justice et de paix. Nous ressusciterons après notre vie terrestre pour peupler cette nouvelle terre restaurée où Jésus sera roi. En attendant, il nous appartient de nous impliquer dans son projet. Et je citerai pour finir Neil Blau qui écrit dans le Christ seul de Pâques au sujet de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dieu veut, Dieu promet un monde nouveau. Il veut, il va restaurer le monde qu'il a créé. Ainsi, la mort de Christ n'est pas seulement pour que je sois sauvé après la mort. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde nous enrôle dans son projet, dans son peuple. Son projet, la bénédiction de toutes les familles de la terre, d'après Genèse 12, la réconciliation de tout, d'après Colossiens 1, versets 19 et 20, et la vie nouvelle, dans Apocalypse 21 et 22. Amen.